Nous venons de chanter que la parole de Dieu est un miroir qui me dévoile à moi-même en me montrant mon cœur toujours au mal enclin. C'est une bonne parole pour nous en face de ce passage que nous allons regarder aujourd'hui. Nous allons, comme nous l'avons chanté, nous asseoir au pied de notre Seigneur qui, par son esprit, parle aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important ce que nous faisons, parce que la parole de Dieu est une parole entre les mains de celui qui l'a parlé en premier, du Christ qui nous parle et qui applique son cœur à nos vies. Donc nous venons avec crainte et joie devant cette parole qui sortit de sa bouche et qui fait son œuvre dans celui qui croit. Je vais juste dire une chose, une nouvelle avant de passer au message pour vous qui connaissez Stuart et Doris Olliott. Doris est allée auprès du Seigneur cette semaine, je ne sais pas si vous savez, d'accord. Et pour ce couple qui a joué un rôle tellement grand dans la vie de milliers de gens et de certains d'entre vous, certainement dans les églises réformées baptistes de la France et de la Suisse, nous voulons prier pour Stuart pendant ces jours, que Dieu le console. Doris est allée auprès du Seigneur vraiment très paisiblement, au milieu des champs, à l'hôpital de son mari, et Stuart a dit que c'est comme si une main invisible avait écarté tout le monde qui était dans la chambre. Une par une, ils sont partis pour différentes raisons et il s'est retrouvé seul avec sa femme. Donc dans ces quelques minutes, il lui lisait des passages bibliques, il lui chantait des chants et elle est partie tout doucement. Bien, nous sommes donc devant un des passages les plus abusés de la Bible. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un qui souvent ne croit même pas au Seigneur Jésus-Christ s'emparer de cette phrase « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé ». Et nous voulons essayer, nous, de comprendre vraiment pourquoi le Seigneur nous place cet enseignement vers la fin de ce sermon où Dieu lui-même nous dit comment vivre. Vous allez vous rappeler, pour placer ce passage dans le contexte de ce sermon que le Seigneur a donné ce jour-là, parce que nous arrivons avec ces versets dans une nouvelle section du sermon sur la montagne. Dans la première partie, vous vous rappelez, le Seigneur nous dit « Qui est citoyen de Dieu ? Bienheureux les pauvres en esprit. C'est à eux qu'appartient le royaume de Dieu. » Et il nous dresse le caractère que nous devons avoir et que nous avons si nous sommes vraiment entrés dans ce royaume. Ensuite, il nous parle du rôle que nous devons jouer et que nous jouons dans le monde. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et ensuite, il prend un bon moment pour nous expliciter, nous exposer la loi de Dieu. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et il ouvre la loi de Dieu et il montre, comme jamais avant dans l'histoire humaine, le sens le plus profond de la règle de conduite du royaume de Dieu. Ça, c'est le chapitre 5. Dans le chapitre 6, il nous parle de comment nous devons vivre toujours dans la présence du Père Céleste et sous le regard du Père Céleste. N'accomplissez pas votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'avez pas de récompense devant votre Père. Quand vous priez, allez dans votre chambre, fermez la porte, priez devant le Père qui est dans le lieu secret. Et le Père vous le rendra. Donc, le Seigneur veut que dans nos prières, dans nos aumônes, dans notre jeûne, que nous fassions ça consciemment devant son regard, toujours devant lui, toujours dans sa présence. Mais aussi, pas seulement dans notre vie religieuse, mais aussi dans notre vie matérielle. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez vêtir ou manger. Regardez les oiseaux. Ils ne travaillent, ils n'ont pas de grenier, et pourtant le Père les nourrit. Ne vivez pas dans l'inquiétude par rapport au matériel, mais vivez dans la présence du Père et dans la confiance au Père. Mais maintenant, le Seigneur change de sujet, parce que nous ne pouvons pas vivre avec lui et le glorifier juste en sachant tout cela. Il y a un autre grand sujet, et ça comprend le chapitre 7, c'est le sujet du jugement et du discernement. Nous, vous et moi, chers amis, nous devons vivre à la lumière du jugement qui arrive. Et donc, nous devons user de discernement en arrivant vers ce grand jour. Et dans notre manière de juger, nous devons refléter le fait que ce jugement vient sur nous. Et dans ce contexte, le Seigneur nous dit ces paroles: « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car du jugement dont vous jugez, on vous jugera, et de la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. » On est obligé en français de mettre « on ». Mais les verbes sont dans le passif ici en grec. Je dirais plus littéralement, c'est du jugement dont vous jugez que vous serez jugé. Et de la mesure dont vous mesurez qu'il vous sera mesuré. Et lorsqu'on utilise un verbe en passif comme cela, dans le sermon sur la montagne et dans l'enseignement de Jésus habituellement, c'est parce qu'on est en train de parler de Dieu. Il vous serait mesuré par Dieu. Vous serez jugé par Dieu. Donc, c'est devant le jugement de Dieu et conscient de ce jugement que je dois juger et discerner. Et comment est-ce que ça peut vraiment transformer votre vie? Et je vais vous dire que ce passage est un grand, 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 nous parle d'un grand, grand, grand problème pour les chrétiens. Et un problème de couple, un problème conjugal, un problème, des problèmes de conflit dans l'Église, des problèmes de voisinage, tout cela est englobé dans l'intérieur du problème que le Seigneur expose et veut éradiquer de notre vie ici. Donc, c'est extrêmement important que nous soyons vraiment à l'écoute. Nous allons voir quatre choses. Première chose, en tant que chrétien, vous ne devez jamais devenir une personne qui juge sans miséricorde. Alors, lorsque le Seigneur dit « ne jugez pas afin de ne pas être jugé », nous devons faire attention. Parce qu'au premier... Au premier abord, vous pouvez penser que le Seigneur interdit toute formulation d'opinion morale. Que le Seigneur est en train de dire que nous ne pouvons pas exercer le discernement moral qui permet de dire « ça c'est bien le comportement de cette personne » ou « ça c'est pas bien le comportement de cette autre personne ». Ne jugez pas. Mais il faut savoir que le mot juger, krino, en grec, a un registre de sens qui va du simple discernement de savoir, d'opinion, jusqu'à l'attitude condamnatoire et hypercritique. Et c'est plutôt de cela que le Seigneur est en train de parler. Je vais vous montrer pourquoi. D'abord, quel jugement ne faut-il pas, jamais, y avoir dans ta vie? Quelle sorte de jugement envers les autres? D'abord, il faut savoir que nous sommes dans le contexte des frères. Regardez, dans notre verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques pas la poutre qui est dans l'œil? Ou comment dis-tu à ton frère? Ce passage a des implications pour toute notre vie et nos relations avec n'importe qui, mais d'abord et principalement, le Seigneur veut nous parler de notre vie dans la famille de Dieu, d'accord? Mais il y a bien des applications. On ne peut pas avoir l'attitude en dehors qu'il nous interdit au-dedans de la famille de Dieu. Mais bon, je dis ça juste pour que vous mettiez le passage dans le contexte. Deuxièmement, Jésus ne condamne pas le fait de juger, même de juger très fermement, ou même d'être en colère contre quelque chose qui est atroce moralement, qui est incroyablement mauvais, méchant, pernicieux, destructeur et donc désagréable à Dieu. Non. Je sais que Jésus n'est pas en train de vous dire que vous ne pouvez jamais juger dans ce sens-là, parce que Jésus lui-même, dans le verset 6, regardez le verset 6 qui suit notre passage, parce que moi je vous parle des versets 1 à 5 aujourd'hui, Jésus dit, ne donnez pas ce qui est saint aux chiens. Il ne parle pas de chien littéral, il parle de personne qui dénomme, qui juge, qui taxe d'être chien. C'est très fort! Jésus dit, ne donne pas vos perles, enfin, ce qui sert aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Les pourceaux et les chiens sont des personnes qui, comme le porc, ne peut pas discerner que c'est des perles que tu as jetées devant lui. Tu lui donnes l'évangile, tu lui donnes des vérités précieuses, et comme il n'a aucun sens moral, cette personne, aucun sens mental, il foule ça au pied. D'accord? Donc, simplement que le Seigneur lui-même donne un jugement très ferme ici. Ailleurs, dans le sermon sur la montagne, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Vous voyez, c'est un jugement. Qui aime prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Jésus n'a pas peur d'appeler un chat un chat. Et je dois vous dire que je ne connais aucun livre dans le monde, aucune perspective qui appelle mieux un chat un chat que la Bible. Aucun mal que nous avons à l'intérieur, à l'extérieur, n'est épargné. La Bible, le Seigneur Jésus, nous expose complètement. Il n'y a pas d'indulgence tolérante qui dit non, rien n'est mauvais. Comme Chesterton a dit, la seule vertu de ceux qui ne croient plus en rien, c'est la tolérance. N'est-ce pas? Cette tolérance qui ne voit aucun mal parce qu'il n'y a plus de mal. Donc la seule vertu que tu peux avoir, c'est la tolérance. Non, 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 non. Ce n'est pas une vertu. C'est une bêtise. Et nous ne devons pas penser que le Seigneur est en train d'interdire tout discernement moral. Mais c'est le jugement sans miséricorde que Jésus est en train de condamner dans les termes les plus forts. Regardez le passage encore, le verset 1. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera. Il va y avoir un jugement de la part de Dieu lui-même. Mais Jésus est en train de nous dire, agissez maintenant dans vos jugements comme vous voulez être jugés par Dieu lui-même. Et il va y avoir un jugement. Donc, vous ne pouvez pas éviter cela. Mais, c'est de la mesure dont vous mesurez quand vous mesurera. Voyez, Est-ce que vous utilisez avec votre femme, vos enfants ou d'autres personnes une mesure tellement stricte et rigoureuse et sévère et hypercritique et sans pitié et sans souplesse et sans miséricorde que il vaut mieux ne pas être à l'autre côté de vos flèches de jugement moral. Je sais que Jésus est en train d'interdire le jugement sans miséricorde parce qu'il y a un livre dans la Bible qui commente le sermon sur la montagne. Vous savez lequel c'est? C'est l'épître de Jacques. Maintes et maintes fois, Jacques prend l'enseignement du sermon sur la montagne et le commente. Et dans son deuxième chapitre, le verset 12 et 13, écoutez bien, il dit ceci: Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Vous voyez, il parle du même sujet et il dit cette chose intéressante. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Jugez comme, parlez, agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, c'est-à-dire, le mot loi de liberté, vous savez ce que c'est? C'est un terme pour l'évangile, qui est une sorte de loi de liberté, parce que devant le jugement de Dieu, mes œuvres qui me condamneraient sont écartées et je suis libéré de la condamnation par l'œuvre de Christ, qui est regardé à la place de mes œuvres. Donc, c'est-à-dire que Dieu use de miséricorde, c'est cette loi de liberté. Dieu reconnaît mes mauvaises œuvres, mais il me fait grâce en raison de l'œuvre du Christ. Donc, pour qui n'a pas fait miséricorde? C'est cette personne que je ne veux pas être. Celui qui juge sans pitié, sans cette attitude où je te vois comme celui qui a commis le crime, même contre moi, mais je te vois aussi comme une victime de ton propre mal. Nous sommes ceux qui font le mal, mais qui sont prisonniers de notre propre égoïsme, n'est-ce pas, notre orgueil. Et la miséricorde voit le mal que je fais, mais le mal dont je suis aussi victime. C'est le même mal. Cette question de ta manière de juger les autres, je ne sais pas où tu en es par rapport à ça, mais c'est d'une immense importance dans ta relation avec l'éternel Dieu. Parce que dis-moi comment un chrétien juge les autres et je peux vous dire comment il voit son propre péché devant Dieu. S'il est vraiment sévère et rigoureux avec les autres, nous allons voir qu'il y a un problème dans son discernement vis-à-vis de lui-même. Et c'est tout le problème que nous voulons voir. Ok, ça c'est le premier point. Maintenant, regardez, en regardant le passage, nous allons voir que Jésus fait une chose assez simple. Jésus pose deux questions et il donne une affirmation. Deux questions pour essayer de nous dévoiler le caractère de celui qui juge sans miséricorde. Comment est-ce que tu vas savoir si tu es cette personne si Jésus n'explique pas ce qui caractérise cette personne? Donc Jésus va poser deux questions pour montrer comment il est, ce monsieur qui juge sans miséricorde. Et ensuite, il va nous donner une affirmation pour nous montrer comment on peut ne pas l'être. D'accord? Ok, nous allons voir les deux questions, mais je vais vous les donner comme ceci. Première question, et c'est le deuxième point dans votre fiche. Quand vous jugez sans miséricorde, vous avez une vision hyper métrope pour discerner le péché. Alors, je vais juste vous expliquer le mot hypermétrope. Vous savez ce que c'est? Hypermétrope, c'est le contraire de myope. Alors, la personne myope voit bien de près et ne voit pas bien de loin. La personne hypermétrope voit bien de loin, mais ne voit pas bien de près. Et c'est exactement la personne que vous êtes si vous jugez sans miséricorde. Maintenant, lisons le verset, vous allez voir cette personne hypermétrope. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? De loin, tu vois, même une paille, c'est-à-dire un escarbille, un petit éclat de bois, une poussière, et tu le vois chez le frère, tu vois, de loin. Quel discernement moral! Et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Tu ne vois pas bien de près. Nous avons tous un peu cette maladie, n'est-ce pas? Et je vous dis que ça fait partie de la nature même du péché. La nature même du péché fait que vous êtes très capable de voir le mal chez l'autre, son égoïsme, ses mauvaises croyances, les choses bêtes qu'il croit, son orgueil, sa folie, mais très peu capable de voir les mêmes choses dans ta propre vie. Presque convaincu qu'il n'y en a presque pas. Est-ce que tu connais des gens qui voient la moindre faute chez le voisin? Tu vas chez eux et ils parlent de tous les voisins. Celui-là, il parle beaucoup trop. Et celle-ci, elle est toujours changeant d'humeur. On ne sait jamais comment on va la retrouver. Je suis insupportable pour moi. Et puis, celui-ci, il ment, il exagère constamment. Et puis, il a raison. Il a raison sur toutes les fautes. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que lui-même, quand on est avec lui pendant 5 minutes, on est inondé de sa condamnation, de son mépris, de son jugement, de sa justice propre qui remplit l'atmosphère et dont il est presque complètement inconscient. Le Seigneur nous donne un portrait qui est, je crois, devait être extrêmement amusant, certainement ridicule. Et s'il y a, les gens demandent parfois si le Seigneur Jésus avait un sens d'humour. Et je pense que s'il y a un endroit dans ces 3 ans de son ministère où je pourrais dire, on a dû être fort pour se retenir. Pour ne pas rire, éclater de rire. Quand on voit l'image que nous avons ici, un homme qui a une poutre dans l'œil, qui a un madrier, un chevron, une grosse planche de bois dans son œil, et il est en train de dire à quelqu'un d'autre, ah, il a un peu de poussière dans son œil. Oh, tu vois, il y a quelque chose dans son œil. Oh là là, et lui-même, il ne peut même pas se tenir debout comme il a. Et je dis, tu m'as dit quoi? C'est vraiment ridicule. C'est complètement... ça fait rire. Et je crois que le Seigneur veut nous montrer à quel point nous sommes insensés. Nous sommes ridicules devant ses yeux. Quand nous avons ce péché des péchés, ce péché de chez le péché qui est le jugement sans miséricorde. Car c'est un péché qui nous amène à juger les autres pour les moindres choses, mais de manière tellement mauvaise. La question que Jésus pose, remarquez bien, parce que les détails sont importants quand le Seigneur parle, tous les mots sont importants. Il dit « Pourquoi ?» Et si vous n'avez pas regardé que c'était une question « Pourquoi ?», vous n'avez rien vu. Il va poser une question « Comment ?», deuxièmement, mais il veut vraiment qu'on réfléchisse sur le « Pourquoi ?». « Pourquoi regardes-tu la poussière qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas ?» Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il... Ça, c'est un mystère pour moi. Qu'est-ce qu'il y a en nous, les hommes et les femmes, qui fait qu'on voit tellement bien le mal chez les autres et tellement flou le mal chez nous? Pourquoi? 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 Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas un manque de capacité de discerner moralement, parce qu'on est tellement capable de discerner moralement. Moi, je connais des gens qui sont tellement dans le discernement moral affiné qu'ils peuvent vous parler même des mobiles des autres pour leurs actions. Et un parent qui va parler de son enfant et lui détailler toutes ses motivations pour toutes ses actions. Et lui dire, tu as fait ça parce que... Et puis le collègue au travail dit, ah, tu vois comment il s'approche beaucoup de Monsieur X, c'est parce que, et il va expliquer la mobile, hein, c'est parce que Monsieur X, il connaît le chef de ressources humaines. Et il veut... Et, il y a des gens qui regardent le comportement et qui savent non seulement le caractère du comportement, mais qui savent le caractère moral de la mobile cachée et secrète qui est derrière. Ils sont forts, hein, dans le discernement moral. Donc, c'est pas un manque de discernement moral. Sauf que ils n'arrivent pas à faire la même chose chez eux. Ce sont souvent les gens qui ont la moindre connaissance de soi qu'on n'a jamais vue. Moi, je dois le dire au sujet de moi-même, et parce que sinon, il aurait travaillé sur son attitude. Mais la seule chose qui explique qu'il est comme ça, c'est qu'il ne voit pas. Il ne voit pas qu'il est tellement condamnatoire, qu'il est tellement sur le cas des autres. Il ne voit pas. Il voit de loin, mais il ne voit pas de près. Pourquoi cela peut-il exister? Je vais juste vous donner un exemple et puis je vais aller au deuxième point et on va aller vite vers la fin. Vous vous rappelez du roi David quand il a pris la femme d'un autre homme, Uri, pendant qu'Uri était sur le champ de guerre, il a commis l'adultère avec elle, elle est tombée enceinte. Pour cacher ça, il a essayé de faire revenir Uri pour qu'il ait des relations avec sa femme, pour qu'il pense que l'enfant était à lui. Et il a fini par tuer Uri parce que sa combine n'a pas marché. Et lorsque Dieu lui envoie au roi David le prophète Nathan, voilà comment Nathan doit faire pour débusquer David, pour lui montrer, parce qu'il ne voit pas de près, son péché. Mais regardez ce phénomène assez incroyable. L'Éternel envoie Nathan vers David, Nathan vers lui et lui dit... On va raconter une histoire. Il y avait dans une même ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Ok, David écoute. Le riche avait du petit et du gros bétail en très grande quantité. Le pauvre n'avait rien du tout, sinon une petite brebis qu'il avait achetée, qu'il la nourrissait. Elle grandissait chez lui avec ses fils. Elle mangeait de son pain, elle buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. Vous voyez, David écoute, il voit bien. Un voyageur arrivait chez l'homme riche et le riche ménagea son petit et son gros bétail pour préparer un repas au voyageur arrivé chez lui. Il prit la brebis du pauvre et la prêta pour l'homme arrivé chez lui. Oh! La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan: l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il voit bien de loin. Il est même dans le jugement sans miséricorde. N'est-ce pas? C'est une histoire au sujet de lui, hein? Il avait plusieurs femmes, il était le roi, il avait tout ce qu'il... Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la femme d'un homme qui n'avait rien, sauf elle. Et il ne sait pas que c'est lui. Donc il s'enflamme et il dit l'Éternel est vivant, c'est-à-dire il jure, il prête serment, cet homme doit mourir. Alors Nathan dit à David, tue et cet homme-là. Tu as frappé de l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Voilà cet homme qui a montré, a fait preuve d'insensibilité envers sa femme, d'inattention blessante. Elle lui parlait le matin, il avait l'esprit ailleurs, il n'a pas écouté sa femme. C'était important pour elle. Et puis, la femme, pendant des heures après, elle devient de plus en plus fâchée. Elle réfléchit de plus en plus profondément à son mari, à toutes ses inattentions, à toutes ses insensibilités. Et arrivée vers la fin de la journée, elle a devant lui un portrait noir de ce mari, tellement égoïste, tellement inattentionné, tellement insensible. Et elle attend juste le moment de lui en parler. Mais elle ne voit pas que pendant toutes ces heures, elle-même, elle a été pleine de colère, pleine d'exigence, aucune pitié, aucune miséricorde. Elle ne voit pas cette laideur de son propre cœur. Elle ne voit pas bien de près, mais elle voit vraiment bien de loin. Le troisième point sur votre feuille, c'est la deuxième caractéristique de cette personne que nous sommes quand nous jugeons sans miséricorde. Non seulement nous avons une vision hypermétrope pour voir le péché chez l'autre, mais nous avons un zèle hypermétrope pour corriger le péché chez l'autre. Regardez bien cette question. Jésus dit, ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Encore, le portrait est assez ridicule et marrant, n'est-ce pas? Mais vous avez maintenant dans l'atelier des menuisiers, hein, ce gars qui a vu l'éclat de bois dans le petit éclat de bois dans l'œil de l'autre, il est penché sur lui, il a une poutre dans son œil et il dit « Laisse-moi enlever la paille de ton œil !» Sauf qu'il ne peut pas bien voir maintenant parce qu'il s'est approché de lui et on le regarde et on dit « Quoi ?» Non, laisse-moi, il ne faut pas laisser du bois dans l'œil, parce que le bois dans l'œil, c'est très dangereux. Sauf qu'il a une planche de bois dans son œil. C'est vraiment, on dit, et il est obsédé. Mais laisse-le, non, il faut tout de suite. Laisse-moi, tu ne dois pas laisser ça dans ton œil, qu'est-ce que tu es en train de faire? Sauf que, C'est vraiment incroyable. Il est obsédé, il est préoccupé. Et c'est ce que nous devenons lorsque nous avons cette attitude de jugement miséricordieux, sans miséricorde. Nous devenons un peu obsédés par cette faute chez notre femme, chez notre enfant, chez notre mari, chez notre voisin. Et cette paille prend des proportions énormes, alors que c'est une paille par rapport à ce que nous avons nous-mêmes dans notre attitude. Mais vous voyez la différence ici dans la deuxième question. La première question est: pourquoi est-ce que tu as cette vision tellement décalée, tellement bien de loin, tellement mauvais de près? Mais ici, c'est une question différente. Comment peux-tu dire à ton frère, comment est-ce que tu peux aborder la situation de son péché avec tellement de zèle? Laisse-moi te fixer. C'est un peu ça. Laisse-moi te réparer. C'est ça le problème. Lorsque nous avons cette attitude, nous avons une envie dévorante, insatiable, de réparer l'autre, de le corriger, de lui faire voir, si seulement je pouvais lui faire voir combien il m'a fait mal, combien c'est méchant son comportement. N'est-ce pas? Et je suis obsédé par le fait que cette personne doit voir la folie de sa croyance, la folie de son comportement, l'égoïsme de ce qu'il est. Sauf que cette obsession avec la faute de l'autre fait preuve d'une attitude qui n'est pas patiente, qui est très impatiente et exigeante. Ça ne vient pas de la piété. Ça vient de l'impatience et de l'exigence. Ça vient d'une attitude condamnatoire. Et nous voyons parfois, et nous avons été parfois un parent qui essaie constamment de corriger, de réparer, de fixer une faute de caractère de son enfant. N'est-ce pas? Laisse-moi t'en parler. Tu m'as parlé 1000 fois de ça, papa. Je sais que je suis comme ça, et oui, c'est pas bien. Laisse-moi t'en reparler une dernière fois, n'est-ce pas? Combien tu es paresseux. Mais tu ne dois pas l'être. Ne vois-tu pas? Ne vois-tu pas que tu te laisses aller? Quel zèle pour la réformation morale chez l'autre! Mais quel manque de zèle complet pour travailler sur mon attitude exigeante. Aucun temps, aucun effort et aucune réflexion dépensée pour essayer de devenir plus patient, gracieux, miséricordieux, compréhensible et doux. En fait, je ne tourne même pas mon regard sur moi pour travailler sur moi. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi réparer, alors que toi, tu as besoin toi-même d'être réparé? Nous abordons donc avec cela le dernier point. Si vous jugez sans miséricorde, il vous faut deux choses pour changer. Regardez dans le verset 5. Jésus dit ceci. Il a posé les questions, il a montré comment cette personne est, et dit: hypocrite. Extrêmement importante. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Jésus nous donne deux consignes pour changer. La première consigne découle de ce mot hypocrite. Imaginez que vous êtes en train de juger quelqu'un sur miséricorde et le Seigneur lui-même vient dans la pièce et dit, tu es hypocrite. Hypocrite? Wow, là ça m'arrête. Parce que il est en train de nous dire que la personne qui juge sans miséricorde n'a pas simplement le problème d'une attitude hypercritique et condamnatoire, mais cette personne est un hypocrite. Ça, c'est un problème moral extrêmement grave. C'est quoi un hypocrite? C'est quelqu'un qui prétend être quelque chose qui n'est pas. Et quand vous jugez sans miséricorde, vous prétendez, même à vous-même, vous l'aurez, mais vous prétendez être quelqu'un qui, c'est juste que moi, la sainteté est importante pour moi. La pureté morale est importante. Je veux être un homme de Dieu. Non, c'est un mensonge complet ce que tu dis. Parce que, mettons-le comme ceci. Nous sommes dans l'atelier des menuisiers. C'est simplement parce que je suis concerné par la santé des yeux de ceux qui travaillent ici. Pour moi, c'est extrêmement important qu'on fasse attention dans l'atelier, parce que ça arrive souvent, que quelqu'un n'ait pas quelque chose dans l'œil. C'est pour ça que je vais vers toi. C'est un mensonge. Si cette personne était soucieuse de ce que les gens n'aient rien dans l'œil, il serait en train de s'occuper de son œil, le premier. Parce que c'est lui qui a le problème le plus grave. Il n'est pas soucieux vis-à-vis des yeux et ce qu'on peut avoir dans les yeux. Ce n'est pas vrai. Parce que sinon, son comportement serait complètement différent. Il est soucieux de quoi? Il est soucieux de ce que les autres soient exactement comme il les veut. C'est tout. Ce n'est pas le péché lui-même qui est un problème pour moi. C'est le péché lorsqu'il m'embête chez l'autre. Parce que le péché en moi, c'est aucun souci que ça continue. Que je sois exigeant, sans grâce, sans pitié, hypercritique, obsédé par le fait de fixer de réparer les autres, mais aucun zèle pour changer cette attitude chez moi. Vous voyez le problème? Quelle hypocrisie! De faire penser que j'ai un souci pour la piété et la sainteté. Alors que, en fait, ce n'est même pas vrai. Je veux juste que les autres soient ce que moi je veux qu'ils soient. Je veux des anges autour de moi, même si je reste démon. C'est fou, hein? La deuxième chose que Jésus dit, c'est ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. L'enseignement du Seigneur est tellement fin et sage parce que nous voyons ici que Jésus n'est pas en train d'enseigner que nous ne pouvons pas aider quelqu'un ou ne devons pas aider quelqu'un à changer. Il dit, quand tu auras ôté la poutre de ton œil, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Tu verras comment le faire. Mais pour le moment, tu ne vois pas comment le faire. Parce que vous savez que lorsque vous jugez quelqu'un avec miséricorde et lorsque vous lui parlez de cette faute, comment est-ce que vous lui parlez? Ces ondes qui sortent de vous, c'est l'impatience, c'est l'exagération. Tu n'es jamais sensible à mes besoins. Tu n'écoutes jamais mes paroles. Et la personne se sent hyper attaquée et condamné et dépeint tout en noir. Et il sait que ce n'est pas vrai, il n'est pas tout en noir, même si... Et la personne ne peut pas écouter un tel reproche, parce que c'est faux, c'est exagéré. Et il n'y a pas ce sentiment que je voudrais vraiment t'aider. Moi aussi, je fais les mêmes choses, et n'est-ce pas? C'est juste une attaque. Mais quand nous ôtons cette attitude hypercritique et condamnatoire, nous voyons. Ah, je vois maintenant. C'est juste un éclat de bois. C'est juste une poussière. C'est pas une chose à me faire, à m'amener à m'enrager, à peindre la personne complètement en noir. C'est juste une chose. Et maintenant, je vois comment l'aider. Mais Jésus dit qu'il y a un ordre à complètement inverser. Parce que au moment où vous avez envie de lui dire, de lui montrer comment il est, le Seigneur dit, ton besoin, c'est exactement le contraire. Ton besoin, c'est de regarder pourquoi tu as cette envie tellement forte. C'est d'inverser tes priorités et dire, j'ai un vrai problème, moi. Je dois voir pourquoi j'ai un cœur comme ça. Pourquoi je peux être tellement dur. Et une fois que j'aurai travaillé sur moi-même, je peux aller voir le voisin au sujet du fait qu'il parle trop. N'est-ce pas? Donc, nous avons besoin, vous et moi, parfois, de prendre le spot que nous avons mis sur la faute de l'autre et de tourner ce spot vers notre attitude de jugement. Et de regarder mon cœur, ma disposition, la manière dont je suis avec quelqu'un lorsqu'il pêche et lorsqu'il pêche contre moi. Je veux vous poser une question pour terminer. Si tu es chrétien, comment est-ce que Jésus a été avec vos péchés? Pour vous, c'est difficile de... Surtout si la personne est chrétien parfois, d'être patient. Parce qu'il est chrétien maintenant. Mais comment est-ce que le Seigneur a été avec vous vis-à-vis de vos péchés depuis que vous êtes chrétien? Jugement sans miséricorde, c'est tellement mauvais, comment est-ce qu'il peut être comme ça? Et comment est-ce que le Seigneur a été avec vous vis-à-vis de vos péchés que vous répétez beaucoup? Vous savez ce péché que vous commettez et vous le commettez encore? Et vous le commettez encore. Ce trait de caractère égoïste ou orgueilleux ou malhonnête enfin, vous savez, et vous faites souvent la même chose. Parce que c'est ça qui vous embête chez les autres, n'est-ce pas? C'est ça qui vous amène à critiquer, à juger. Mais comment est-ce que le Seigneur Jésus, dans ces années, avec vous, dans ces péchés-là, comment il a été avec vous? Est-ce qu'il a juste laissé passer ce péché? Non. Non. Il nous châtie parfois. Mais toujours avec miséricorde. Avec compréhension. Pierre, Pierre, cette nuit, tu vas renier trois fois de me connaître. Mais je priais pour toi. J'ai prié pour toi. Notre problème, lorsque nous jugeons sans miséricorde, c'est simplement que nous ne voyons pas encore combien nous-mêmes. Nous sommes des gens qui ont radicalement besoin d'un jugement avec beaucoup de miséricorde. Et c'est ce que le Seigneur nous a donné en venant mourir à notre place, n'est-ce pas? Autant, premièrement, la poutre de notre œil. Et ensuite, nous verrons bien comment ôter la paille de l'œil de notre frère. Et ce péché deviendra à nos yeux une paille quand nous aurons ôté la poutre de notre œil.